Le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La lettre Z dessinée dans le ciel de Moscou, les MiG russes au rendez-vous de la grande parade militaire sur la place Rouge tout à l'heure, célébration de la victoire de 1945 contre le nazisme. À défaut de victoire en Ukraine, le discours de Vladimir Poutine est évidemment très attendu. Nous sommes à Moscou dans un instant. L'autre face de cette journée, c'est l'Europe, célébrée à Strasbourg par Emmanuel Macron, les ferments de la paix contre ceux de la guerre. Dans ce journal aussi, le retour de la burqa imposée aux femmes en Afghanistan. Les talibans n'ont pas changé. Et avec vous, Nicolas, le regard d'un socialiste, ancien président, sur la nouvelle union de la gauche
en
France.
Oui, François Hollande à notre micro dans une vingtaine de minutes avec Léa Salamé et toutes vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000.
Soleil au zénith, 28 30 degrés attendu cette semaine en France et pas de pluie, sécheresse préoccupante. Le bac, début des épreuves de spécialité dans deux jours. Maintenant, ce sont les premières de la réforme Blanquer. À la une aussi, de longues heures à attendre à l'aéroport. Voilà ce qui se profile pour cet été. Et la relève du tennis mondial. Il a battu Nadal, Djokovic, Zverev. Il s'appelle Carlos Alcaraz. Il est espagnol. Il a 19 ans. Il vient de remporter le tournoi de tennis de Madrid.
France Inter.
Des soldats qui avancent, des chars flambant neufs, du matériel de pointe et cette ère de victoire, loin des difficultés de l'armée russe en Ukraine. Ce qui sera donné à voir ce matin sur la place Rouge à Moscou, c'est la grandeur du passé. 9 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie à l'heure russe, le grand moment patriotique du pays. Remis à la sauce ukrainienne cette année, Vladimir Poutine compare toujours le pouvoir de Kiev au régime d'Hitler. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Florence.
C'est vous qui allez suivre cette grande parade militaire à Moscou. Parlez-nous d'abord, Sylvain, de ce qu'on va voir.
Eh bien, ce qu'on va voir, c'est l'habituelle démonstration de puissance de l'armée russe un 9 mai, hein, celle qui laisse des traces profondes dans le bitume de la capitale, mais aussi peut-être cette année dans les esprits, avec la présence de chars, d'unités qui ont combattu en Ukraine, qui seront célébrés avec des formations d'avions de chasse dans le ciel en forme de Z, avec aussi, surtout, une participation de la composante nucléaire de l'armée russe, des missiles sur roues qui traversent la place Rouge, comme tous les ans, j'ai envie de dire, mais peut-être plus encore en témoigne la participation de cet avion, désormais célèbre, l'Ilyushin 80, qui servirait de bunker volant à Vladimir Poutine en cas de conflit nucléaire. Un avion sans hublot, reconnaissable à son énorme bosse sur le fuselage. Un avion qu'on n'avait pas vu depuis 12 ans dans les défilés du 9 mai. Tout un symbole quand les dirigeants du pays n'hésitent plus à agiter le spectre d'une troisième guerre mondiale.
Voilà pour les images. Il y aura aussi les mots, Sylvain, le discours de Vladimir Poutine.
Oui, un discours du 9 mai qui est traditionnellement assez court, hein, 10 à 15 minutes, souvent beaucoup plus symbolique que politique. C'est aussi un moment d'écriture, de réécriture de l'histoire pour Vladimir Poutine. L'an dernier, il mettait en garde contre ce qu'il estimait être le retour du nazisme au centre de l'Europe. Des propos évidemment annonciateurs de ce qu'il appelle aujourd'hui la dénazification de l'Ukraine. Ira-t-il plus loin cette année? On a parlé de l'annonce de la mobilisation générale, d'une déclaration de guerre. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers jours, toutes démenties par le Kremlin, et ça ne correspondrait pas à ce que Vladimir Poutine a fait de cette séquence du 9 mai. Maintenant, il est quand même difficile d'avoir des certitudes au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou, en Ukraine, les bombes russes continuent à faire des ravages. 60 morts annoncés hier soir après le raid mené samedi contre une école du Donbass, où s'étaient réfugiés des civils. Mais depuis longtemps déjà, Moscou a renoncé à prendre Kiev et sa région, incitant plus d'un million d'Ukrainiens à revenir d'exil. Terminus Kiev, billet retour. C'est un reportage d'Agathe Mahuet.
Il est en retard, comme beaucoup de trains en ce moment en Ukraine, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils ramènent leur fille. Victor et Ludmila, bouquet de fleurs à la main, impatients sur le quai. Et Victoria, 18 ans, leur tombe dans les bras.
Je n'avais pas vu mes parents depuis plus de 2 mois.
Envoyée dans la région d'Ivano-Frankivsk au tout début de la guerre, sa vie récente tient dans deux sacs plastiques.
J'étais partie un peu vite en mars avec seulement 2 pantalons, 2 chemisiers et 1 veste.
Mais les intentions de Poutine pour ce 9 mai les inquiètent.
C'est sûr que ça aurait sans doute été plus raisonnable que je patiente encore quelques jours par sécurité, mais je ne pouvais plus attendre.
D'autres, comme cette famille qui descend du train de Tchernivtsi, ont trouvé trop dur à vivre ce statut d'exilé.
Notre morale en a pris un coup.
La petite Katia serre très fort son énorme nounours, contente d'être revenue de l'Ouest malgré la guerre. Et sa maman ajoute
qu'on est peur peur ici ou qu'on ait peur là-bas, finalement, qu'est-ce que ça change ?
Elle pense déjà à l'avenir, aux visiteurs qu'elle prédit nombreux dès que son pays, l'Ukraine, sera libéré.
Les incite. Voilà, Agathe Mehué avec Arthur Gerbeau à Kiev. 9 mai 2022, la guerre sur le sol européen. Mais à cette date, on célèbre aussi la paix, l'anniversaire de la déclaration Schuman de 1950. C'est la fête de l'Europe, célébrée par Emmanuel Macron devant le Parlement de Strasbourg. Discours de clôture de la conférence pour l'avenir de l'Europe, cette grande consultation citoyenne lancée l'an dernier. Le président réélu, il lancera au moins deux messages, Maxence Lambrec.
Le premier, clairement assumé par l'Elysée, l'affirmation de deux modèles au même moment. À Moscou, un défilé militaire, la démonstration d'une force, d'un révisionnisme historique qui aboutit au sang versé sur le sol ukrainien, résume un conseiller. À Strasbourg, un débat politique, l'affirmation de la force des démocraties libérales où les citoyens sont libres et s'expriment. Emmanuel Macron va mettre en avant certaines de leurs propositions. Le droit à la déconnexion à l'échelle européenne, l'enseignement à l'école des bienfaits de la biodiversité. Le second message a une portée nationale et même électorale. L'Elysée s'en défend. Il s'agit à 5 semaines des élections législatives d'apparaître comme le défenseur de l'Europe à l'heure où toute la gauche se dit prête à déroger ou désobéir aux traités. Globibulga, mensonger et dangereux, attaque le secrétaire d'État aux affaires européennes. Si on choisit ces règles à la carte, chacun fera de même, affirme Clément Beaune, et la destruction de l'UE est inévitable. Comme lors du scrutin présidentiel, l'enjeu de l'Europe est central sur le fond par ce qu'il dit de notre rapport à la démocratie. Même ressort, même des corps. En janvier dernier, c'est au Parlement européen qu'Emmanuel Macron avait, sans le dire, lancé sa campagne.
Et direction Berlin en fin d'après-midi. Premier voyage du président après sa réélection pour aller voir le chancelier Olaf Scholz. Et pendant que le monde a les yeux rivés vers l'Europe et vers les guerres passées et présentes, il est un pays qui vient de refaire basculer la moitié de sa population dans les ténèbres.
C'est l'Afghanistan qui oblige, Florence, de nouveau les femmes à porter la burqa et les incite à ne plus sortir de chez elles.
Décret publié ce week-end à Kaboul, les talibans n'ont décidément pas changé pour Shekeba Hashemi, première femme afghane devenue diplomate dans les années 2000.
Ils viennent d'annoncer, les talibans, que les femmes n'ont plus le droit de sortir et que c'est par de rares occasions qu'elles peuvent sortir en portant ce voile et que si c'est pas respecté, ce sont les hommes de la famille qui vont être punis de manière assez grave et emprisonnés. Donc, ce sont toute une série de menaces contre les femmes qui arrivent depuis le 15 août par petits bouts. Il n'y a pas de, malheureusement pas de surprise pour le peuple afghan parce que nous savons que ce sont les mêmes. De plus en plus, ils montrent leur vrai visage. Il faut plus se berner, il n'y a pas de talibans modérés. Nous avons vu le 21 mars 2022, le premier jour de la rentrée scolaire, qu'ils ont interdit l'éducation à toutes les petites filles, à toutes les femmes d'Afghanistan. Et aujourd'hui, ils interdisent la sortie de ces femmes. Donc, on veut à nouveau que les femmes disparaissent de la vie sociale, économique et de la vie afghane tout court. C'est en ça que c'est très symbolique ce qui se passe là maintenant.
Shekeba Hashemi, jointe par Yann Galik, elle est aussi la fondatrice de l'association Afghanistan Libre, complice du massacre de plusieurs dizaines de milliers de Tutsis du Rwanda pendant le génocide. Un ancien préfet comparé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, 28 ans après les faits qui lui sont reprochés. L'accusé Boussi Baruta est réfugié en France, il a 78 ans. Et puis c'est aujourd'hui que François Fillon et son épouse seront fixés sur leur sort judiciaire. Arrêt de la cour d'appel attendu dans l'affaire des emplois fictifs. En première instance, l'ancien Premier ministre a été condamné à 2 ans de prison ferme.
Il est 8h10 quand la météo joue l'été avant l'heure.
30 degrés à Lyon, Bordeaux, Toulouse, 28 à Paris cette semaine. Pas de pluie. Et c'est bien le problème. La sécheresse est de retour. Une quinzaine de départements ont déjà imposé des restrictions d'eau. Les cultivateurs scrutent le ciel quand les éleveurs regardent le sol. Et cette herbe qui ne pousse plus dans la région de Grasse. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes avec des brebis qui n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent, Julie Munch.
Les brebis de Bernard Bruno ne tiennent pas en place.
7h30 le matin à 7h30, 8h le soir, c'est non-stop.
Elles ont faim.
Là, elles peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure et après on change d'endroit. La verdure, s'il y a un peu de verdure, un peu de nouvelle herbe, elles la cherchent, quoi. Là, depuis une demi-heure, elles étaient là, il n'y a plus rien, quoi.
L'herbe n'a pas poussé à cause du manque de pluie.
Ben, il y en a un peu, mais il faudrait, à cette saison, il faudrait la pluie, la chaleur pour que ça grandit, c'est qu'elle mange à volonté, quoi. Et là, c'est court et c'est vrai qu'ils nous annoncent la pluie, mais elle ne vient jamais, quoi. Les sécheresses nous font peur.
Surtout au printemps, parce que l'herbe jaunie de l'été, c'est pas tellement un problème pour les brebis. Elles la mangent quand même. Ce qui est plus grave, c'est que là, jaunie ou non, il n'y en a pas assez. Alors pour les nourrir, Bernard Bruno pourrait acheter du foin. Il l'avait fait pour sauver son troupeau en 2017, mais il n'est pas sûr de le refaire.
Je ne sais pas. Là, on n'envisage pas de donner du foin dans l'été. Ben, on se ruine. Ils mangent tous les jours. Hein. Ils mangent la banque. À part les vannes, moi, s'en débarrasser. Il y a un système catastrophe, il arrive là, quoi. Bon, on espère toujours qu'il va pleuvoir, quoi.
De la pluie en quantité et maintenant, pour faire pousser l'herbe et sauver ce troupeau de 900 brebis.
Julie Munch, France Bleu Azur, la sécheresse ailleurs sur la planète, c'est parfois la famine, la désertification qui avance et fait reculer les terres agricoles. Ce sera l'objet de la COP 15 contre la déforestation qui s'ouvre aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire. Deux jours de révision avant les premières épreuves. Mais oui, c'est déjà le bac. Les épreuves anticipées de spécialité cette semaine, reportées pour cause de Covid. Elles auront lieu pour la première fois et quand c'est nouveau, Maxime Debs, évidemment, ça fait peur.
Programmées mercredi, jeudi et vendredi, ces épreuves portant sur une douzaine de spécialités, humanité, littérature, philosophie, SVT ou encore mathématiques, seront un test pour le bac Blanquer qui s'est fracassé ces deux dernières années sur le Covid. Annulé, remplacé l'an dernier par le contrôle continu, ces épreuves, les résultats devaient compter initialement dans le dossier Parcoursup de l'élève, d'où leur programmation en mars au départ. Là, aléa de l'épidémie oblige, elles interviennent tard dans le calendrier, en plein mois de mai, obligeant les enseignants à jongler entre les conseils de classe, les rencontres avec les familles, le programme a terminé, sans compter la correction qui se fera pour l'occasion par voie informatique cette année. Les copies des élèves seront scannées et corrigées sur écran. En janvier 2020, le concept avait été testé et avec le scan simultané de centaines de copies dans toute la France, le système avait bugué. Beaucoup de nouveautés à appréhender pour les enseignants qui pourront demander à leur chef d'établissement jusqu'à 4 demi-journées pour faire face à la surcharge de travail que constitue la correction des examens.
Le bac 2022 et ses nouveautés, ce sera le sujet du téléphone sonne de ce soir. Des représentants syndicaux pour des travailleurs qui ne sont pas salariés. Premières élections professionnelles chez les livreurs et les chauffeurs VTC des plateformes comme Uber ou Deliveroo à partir d'aujourd'hui. Mais les syndicats s'attendent à une très forte abstention. Attendre, ça paraît inévitable dans les aéroports comme à Amsterdam la semaine dernière. Immense pagaille due à la reprise du trafic, avec beaucoup moins de personnel pour contrôler les passagers, les bagages et charger les avions. L'Association internationale du transport aérien redoute un engorgement des aéroports internationaux cet été. Ce sera sans doute le cas en France, avec de longues heures d'attente à prévoir avant d'embarquer, Philippe Lefebvre.
Eh bien, ce n'est pas impossible, reconnaît-on du côté des gestionnaires d'aéroports qui ont été surpris par la reprise soudaine du trafic aérien. Mais le problème, c'est que durant la crise sanitaire, de nombreux salariés ont quitté, volontairement ou non, les aéroports. Résultat, les structures manquent de bras. 4000 postes sont à pourvoir dans les aéroports parisiens. Des emplois essentiels, explique Thomas Join, le président de l'Union des aéroports français.
Il y a à peu près une perte d'effectifs de 15 à 20%, notamment pendant la période Covid sur les plateformes. Si vous prenez l'exemple d'un agent de sûreté, il faut à peu près 3 à 5 mois, en effet, entre le moment où la personne est recrutée et puis où cette personne est opérationnelle sur le poste, puisque il y a d'abord le temps de formation et puis ensuite vous avez des agréments. Clairement, on aura un sous-effectif pour cette saison été.
Ajoutez à cela des policiers en nombre insuffisant pour le contrôle des passeports et pour Laurent Garcine, le secrétaire général du syndicat autonome des personnels d'aéroports de Paris, il faudra probablement plus de 2 heures aux passagers pour franchir tous les points de contrôle l'été prochain.
Effectivement, je pense qu'on va avoir des zones de saturation qui vont être énormes. J'ose espérer qu'à 2 heures, on puisse faire passer un passager, mais je pense que le stress il va s'augmenter du fait de peur de louper son avion.
Et tous espèrent ne pas vivre le même scénario qu'à l'aéroport d'Amsterdam la semaine dernière, face à un problème similaire de manque de personnel. La compagnie KLM a dû annuler 70 vols en une journée et en dérouter certains vers un autre aéroport.
Et des tarmacs des aéroports, on passe à l'asphalte, à la pelouse, à la terre battue, à la page des sports. Une victoire à Miami pour Max Verstappen lors du premier Grand Prix de Formule 1 organisé en Floride. Un match nul pour le PSG, 2-2 face à 3, c'est le troisième nul pour les Parisiens et ça fait du bien aux Troyens menacés de relégation. Et un champion de tennis, ça c'est sûr, il est espagnol, il vient d'avoir 19 ans, il s'appelle Carlos Alcaraz. Un mental d'acier, un jeu qui fait dérailler les parrains du tennis mondial. Alcaraz a remporté son 4e titre de l'année hier soir au tournoi de Madrid en battant Zverev, le numéro 3. Fabrice Abgral, cette fois, on ne s'emballe pas puisqu'on a vraiment affaire au début d'un très grand joueur.
À Madrid, Carlos Alcaraz a dominé 3 des 4 meilleurs joueurs du monde, devenant même au passage le premier à surclasser Novak Djokovic et Rafael Nadal sur terre battue dans un même tournoi. L'exploit est colossal. Le Murcian n'a pourtant que 19 ans, mais il ne nourrit aucun complexe. Il bouscule sans pitié l'ordre établi. Il fait preuve d'une lucidité, d'une intelligence tactique, d'une sérénité et d'une maturité à nul autre pareil. Gaël Monfils a pu le constater en mars dernier à Indian Wells.
Quand il m'a battu, j'avais tout de suite dit, j'ai trouvé ça monstrueux. J'en ai même rigolé pendant le match tellement que je trouvais incroyable. Moi, ce qui m'a impressionné vraiment chez lui en premier, mis à part sa qualité de balle qui est incroyable, mais c'est à la vitesse dont il se déplace. On est tous admiratifs, on attend tous de voir ce que ça va être une future légende aussi.
Il n'est pas encore une légende comme l'est Rafael Nadal, mais pour Gérard Sobagnan, l'organisateur du Masters 1000 de Madrid depuis 20 ans, Alcaraz est plus fort que Nadal au même âge.
Sans aucun doute. Il a tout ce qu'il faut pour être un champion et il n'a pas de points faibles. Il a une panoplie de coups plus large que ne l'avait Rafael Nadal à son âge.
Il y a un an, Carlos Alcaraz était 120e mondial. Aujourd'hui, il est 6e et ce n'est probablement qu'un début.
Et vaincu hier, voilà ce que l'Allemand Zverev a dit au jeune Alcaraz. Tu es le meilleur joueur du moment. Même si tu n'as que 5 ans, tu nous bats déjà tous. Tu vas gagner plein de grands chelems et devenir numéro 1 mondial. Avec tout ça, on a hâte de voir le prodige sur les cours de Roland-Garros à partir du 22 mai.
Merci Florence Paracuellos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Quelques grisailles matinales, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, on a quelques bandes brouillard qui se sont formées tout au nord du pays, dans le Val-de-Loire, ou les Landes. Les brumes de mer longent également les côtes de Saint-Brieuc à la baie du Mont-Saint-Michel. Et quelques entrées maritimes couvrent un peu les régions entre la Camargue à Narbonne et sur la Corse. Sur les autres régions, vous passerez une matinée ensoleillée sous des températures contrastées. Il fait 4 à Beauvais sur les Ardennes, mais 16 à Bordeaux, 12 à Paris. Vous avez 5 dans la Creuse, mais 15 à Perpignan. Il fait 7 à Lille, 11 à Cabourg, 4 à Charleville-Mézières, mais 16 à Antibes.
Et il va faire chaud cet après-midi.
Et oui, aujourd'hui début de la première vague donc de chaleur avec les premiers 30 degrés qu'on attend dans le sud d'ici mercredi. En fait, l'anticyclone des Açores fait remonter de l'air subtropical sur tout le pays et ce temps sec va durer. Cet après-midi, l'instabilité venant de la goutte froide italienne va quand même gagner les reliefs de l'est et les orages vont éclater du Jura aux Alpes à l'intérieur de la Provence mais aussi en Corse et la grande cumulification donnera également un temps orageux sur les Cévennes et les Pyrénées-Orientales. Partout ailleurs, ce sera temps sec ensoleillé avec un ciel parfois voilé sous des températures qui continuent de grimper. Au minimum, on attend 21 à Bastia, 23 au Havre, comme à Biarritz, Langres et Brest, 25 à Lille, Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg, vous aurez 27 à Paris et Nantes, voire 29 à Bordeaux.
Voilà, c'est fini. Merci Marie-Pierre. France Inter, il est 8h18.